Donc on va maintenant clore cette journée par une dernière table ronde où on va s'interroger sur ce que peut être la culture de demain. Alors bien évidemment, c'est une notion qu'on a déjà abordée en filigrane dans les échanges précédents. Mais on va revenir ici sur un certain nombre de freins au développement des ICC. Et revenir aussi sur des expériences diverses, s'interroger aussi sur des échelles d'action et voir aussi, à l'inverse, comment des verrous et des freins initialement très forts peuvent s'avérer extrêmement stimulants pour la créativité. Alors, il était initialement prévu de faire une place à quelqu'un de Pays non Bel-Air agglomération capitale de la culture dans cette table ronde. Hélène en a parlé tout à l'heure, capitale française de la culture, qui était aussi une sorte de laboratoire de la culture de demain, comment on construit une offre culturelle sur une année, sur toute une agglomération. Mais, je le dis parce que c'est aussi un enseignement pour les chercheurs, le politique à PMA a estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour venir nous parler. Alors le politique, on l'a dit, c'est un des acteurs du développement des politiques culturelles qui est nécessaire, mais on le voit, il y a des moments où il peut aussi être à l'origine de freins. On ne parlera donc pas de capitale française de la culture, mais nul doute qu'avec nos quatre invités, on va pouvoir aborder un certain nombre de sujets. Il y a donc autour de moi donc Armelle de Vigon, qui est danseuse fondatrice de la compagnie de Zelle, Fabrice Raffin, qui est socio-anthropologue, maître de conférence à l'université de Picardie, Maxime Guedet, qui est chargé de mission transformation écologique de la création à la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture, et Simon Nicolas, qui est le coordinateur artistique de l'association Nouvelle Forme, notamment. On aura quelques images, alors surtout avec toi, Simon. Tu nous diras, toi, tu les vois en transparence derrière, mais sur lesquelles on reviendra. On va commencer par toi, Simon. Tu es dans cette table ronde parce que toi, tu travailles sur une forme de culture assez hybride, finalement, qui est amenée sans doute à se développer beaucoup, qu'on peut appeler rapidement l'art numérique. Est-ce que tu peux commencer par nous dire en fait ce que tu fais en nous présentant ton association, peut-être, et ton festival, en nous expliquant aussi en quoi ça peut être une difficulté d'être hybride comme ça, en quoi ça peut être riche, mais aussi une difficulté.
Bonjour, donc moi je suis Simon Nicolas, donc le coordinateur, directeur artistique, médiateur chargé de production, chargé de manger, chargé de boire, chargé d'à peu près tout dans cette association qui s'appelle Nouvelle Forme. C'est une association qu'on a créée en 2022 qui croise art au pluriel et technologie, c'est-à-dire que on développe beaucoup de formes artistiques mais avec toujours une dimension technologique plus ou moins importante en fonction de l'œuvre. On a monté à la base un festival qui s'appelle le festival d'autres formes qui a lieu à Besançon chaque année, donc cette année c'était à l'automne, dans une dizaine de lieux différents à Besançon. Alors ça peut être un musée, ça peut être un lieu dédié à la culture, une salle de concert, un théâtre, etc. Ça peut être aussi l'espace public, ça peut être aussi un hôpital, ça peut être les bords d'une rivière, ça peut être plein d'endroits en fonction des thématiques. Ce festival, c'est un peu notre laboratoire et notre cour de récré où on fait à peu près 60% de création pour cet événement-là avec des artistes locaux. Et une des particularités de notre événement, c'est qu'on propose souvent à des artistes de créer des couples avec des développeurs informatiques pour qu'ils créent une œuvre hybride et souvent essentiellement interactive, c'est-à-dire que c'est au public de manipuler en fait ce qu'il voit, de façonner un petit peu ce qui l'entoure. On travaille aussi beaucoup avec des chercheurs, avec des artistes vraiment de tous horizons, et notamment des artistes locaux. À Besançon, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une scène art numérique, art digital, art technologique qui n'était pas forcément très très présente par rapport au reste des coins en France. Et l'idée, c'est vraiment de la développer et puis de proposer du coup à ces artistes d'utiliser la technologie pour développer leurs propos. Pour ça, du coup, on utilise beaucoup de technologies, évidemment, et la technologie qui est essentiellement réplicable, c'est-à-dire que quand on travaille avec des développeurs, on leur dit, en fait, à la base, on cherche à faire du code pour tel usage pour le public, mais il faut quand même qu'on puisse l'ouvrir aussi sur d'autres choses. Donc on fait ce qu'on appelle un peu des squelettes technologiques sur lesquels on peut greffer plein de choses et sur lesquelles plein d'artistes peuvent se greffer. Et puis ces œuvres-là, on est amené aussi souvent à les diffuser après sur le territoire, donc pas forcément que à Besançon, mais à peu près la moitié des œuvres qu'on crée pour d'autres formes ou à l'année, en fait, on les fait se balader un peu partout. Donc ça peut être ailleurs, ça peut être à Bonifacio, ça peut être un peu un peu partout. L'autre aspect de nouvelle forme, c'est de proposer une médiation qu'on considère comme post-expérience, c'est-à-dire qu'on ne dit pas au public ce qu'il doit faire. Il arrive dans un endroit, il manipule, il change, des fois il a juste à se déplacer, à souffler dans un truc, à dire un mot, peu importe. Et voilà, on ne lui dit pas ce qu'il doit faire et après on discute avec eux très clairement du propos de l'artiste, de pourquoi on a fait ça à cet endroit-là et tout ça. Sinon, dans le reste de nos activités, on fait de la, ce qu'on appelle de la curation, donc de la direction artistique d'événements, par exemple pour la saison numérique du Doubs, ce genre de choses. Et on répond aussi à plein d'appels à projets, qui est aussi une grande partie quand même aussi de notre activité et aussi de notre rémunération. Et c'est des appels à projets qui ne sont pas forcément à la base destinés à la culture, dans lequel on amène la culture en fait. Et cette dimension technologique, en fait, elle permet d'être tellement hybride sur tellement de choses que, par exemple, on fait aussi, on répond à des appels à projets, par exemple, autour de la formation, ce genre de choses. Et en fait, on amène vraiment la culture là où elle n'est pas forcément prévue au départ, et ce qui fait qu'en fait, on va dire presque 40% de notre financement ne vient pas du tout de fonds culturels, au contraire. Ça vient plutôt de l'innovation du territoire, de la formation, de ce genre de choses. Une de notre facette de notre asso, c'est que la dimension technologique, elle parle vachement aux ados. Elle parle vachement aux enfants. Et en fait, on ne présente pas du tout les œuvres de la même façon. On n'appelle jamais ça œuvre, ni installation, ni art, dans quoi que ce soit par rapport à des enfants ou des adolescents. Bien au contraire, on appelle ça jeu, jeu vidéo, peu importe, truc. Et du coup, ça change complètement en fait, le regard que ont certains publics qui viennent vraiment par eux-mêmes dans nos événements. Typiquement, l'année dernière, par exemple, pour le festival d'autres formes, j'avais presque les larmes aux yeux à un moment où il y a quatre adolescents qui sont venus de Saint-Claude, dans le Jura, en bus à Besançon, pour participer à une après-midi autour du jeu vidéo alternatif. Là, je me suis dit, waouh, ça c'est quand même cool. Ils ont pris une journée pour venir voir ce qu'on proposait. Donc ça, c'est bien. Et puis, le fait de s'adresser à des ados spontanément et des jeunes adultes, ça intéresse aussi beaucoup les institutions culturelles avec lesquelles on bosse, parce qu'il y a beaucoup de questionnements justement autour des renouvellements des publics, etc. Donc je pense qu'on va parler après. Et on travaille aussi, du coup, beaucoup avec des chercheurs. Alors, les chercheurs, ça, c'est le gros, on va dire, aussi de mon activité. Ça aussi, je pense qu'on en parlera probablement après. Mais alors, c'est un truc, un monde qui est complètement dingue et qui est complètement pas le mien, hein, très clairement. Donc, il y a plein d'étapes à respecter, comme ça, essayer de comprendre, essayer d'avancer avec eux. Et puis, que ça puisse servir à la fois leur recherche et puis aussi les usages du public. Donc, ça, c'est compliqué. Du coup, comme on bosse avec à la fois des plasticiens, des musiciens, des bidouilleurs, des menuisiers, des chercheurs, des régisseurs, des DJ, enfin bref, toute une pléthore de gens et qu'on fait des événements qui sont complètement hybrides. Il se trouve que c'est extrêmement compliqué à monter en fait en termes vraiment d'ingénierie culturelle. Et moi, j'adore faire des dossiers de subvention. Je pense que je suis le seul de la salle, hein, très clairement. Mais j'en fais à peu près au moins 25 par an. Oui. Je vous le garantis. Mais par contre, quand je monte mes dossiers de subvention et que j'arrive à la page pour cocher les cases d'une esthétique principale ou de pouvoir répondre à telle chose, en tout cas en cochant cette case, donc là, généralement, je prends un sac de papier en craft, je souffle un peu dedans, comme ça, avant de faire une crise d'angoisse, et en fonction de ce que je coche, ça m'amène sur d'autres pages. Et du coup, le fait de monter des événements qui croisent à la fois du coup des artistes, des chercheurs, des menuisiers, où on va voir, nous on est subventionné à 100%, tout ce qu'on propose est complètement gratuit, donc on est suivi par le ministère, le département, la région, la métropole, la ville, enfin bref, tout ce qui est possible et inimaginable. Et leur faire comprendre que dans le cadre d'un appel à projet d'innovation du territoire dans lequel nous amenons des artistes, qui fait partie finalement d'un événement culturel à destination de plein de publics différents basés sur des recherches de trois chercheurs, etc. et compagnie. Alors, faut aimer les pelotes de laine, hein, très clairement. Mais résumer ça en 300 mots, en synthèse, c'est super complexe. Ce qu'on propose à la fin, généralement, est hyper simple pour le public. Mais en tout cas, le montage du dossier, il est vraiment tendu, donc je fais ça la nuit quand mes enfants dorment. Mais ça demande en tout cas beaucoup de choses. Et puis évidemment, on est une toute petite équipe, donc on est 2,5. Et on organise donc cet événement et puis après une vingtaine d'autres événements à petite ou grande échelle un peu partout sur le territoire. Et on fait partie de plein de réseaux, notamment des réseaux locaux comme l'AFEMA ou 16000 qui est ici, mais aussi ACNUM, Réseau des arts hybrides et tout ça, etc. TNM Lab et compagnie et tout ça. Donc on essaye d'être quand même aussi acteur et vivant là-dedans. Voilà.
Merci. On va partir complètement ailleurs avec toi, Armel, pour que tu nous dises un petit peu comment le Covid, par exemple, toi, a peut-être pas complètement modifié toute ta pratique, mais enfin, t'a permis de développer des formes nouvelles en ruralité, là où tu es, par la danse.
Bonjour à tous. Donc, Armel de Vigon, compagnie 2LE, danseuse à la base, passionnée danseuse en nature, depuis 20 ans, pas sur les plateaux. Avec depuis 20 ans des projets qui prennent la forme de beaucoup de déambulations contemplatives et artistiques au lever du jour en nature. Et des projets qui s'inscrivent en collaboration avec des habitants. Et puis donc confinement, projet de territoire dans le Doubs qui s'annule. Cette injonction à s'arrêter car l'art est non essentiel. Et donc pour transformer la colère qui était là, avec une amie danseuse, on a décidé d'aller offrir des danses en cadeau sur les pas de porte des gens, des villages autour de chez nous. Donc en gros, comme tu disais Hélène, je crois, on va voir les maires des villages, on leur propose le projet, et grâce à eux, il faut que ça se fait vraiment, ce sont des projets en collaboration, ce n'est pas des projets qu'on fait tout seul. Ils nous emmènent rencontrer les habitants de leur village. Ils nous présentent et ils nous disent, Armel et Derry vont vous faire un cadeau. Et on leur propose, s'ils le souhaitent, de leur faire une danse en silence sur leur pas de porte. Voilà, et c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe, vous imaginez, au confinement, plein de gens en milieu rural complètement isolés et qui, parce que c'est l'endroit entre l'intime et le public se livrent à nous dans toute leur beauté incroyable. Voilà. Et donc, à partir de ça, on a décidé de faire une marche de 330 bornes. On est parti de chez moi, j'habite dans un petit village en Bourgogne, et d'aller dans ce village où on devait travailler 6 mois avant, au début du confinement. Et sur notre route, on s'arrête dans tous les villages pour offrir des danses sur les pas de porte. Ça, c'est les week-ends. Et la semaine, on dort chez des gens et contre le gîte et le couvert. Ils invitent leurs copains, ils invitent leurs voisins et on danse dans leur jardin. Voilà. Pour moi, ça a été énorme, ce projet. Ça a été... j'ai mis un an à m'en remettre. C'est la première fois où je me sentais mais littéralement utile, où la danse, parce que danse contemporaine, on imagine que c'est pas tout le temps facile à vendre tout ça, et que pour la première fois, une danse, j'avais le sentiment qu'elle pouvait sauver l'instant. Voilà. Et puis par rapport au... parce que c'est quand même un questionnement de fond que j'ai depuis 20 ans autour des projets de territoire que je monte, c'est comment aller choper... des gens qui, même s'il y avait un spectacle sur leur place de village, ne viendraient pas, parce que ceux-là, pour les choper, c'est pas simple. Et le pas de porte, il résout ça, en fait. Parce qu'on va voir tout le monde, parce que aussi, nous, on n'a pas l'historique du maire qui nous dit « Ah non, mais eux, il ne faut pas aller les voir, ils ne sont pas sympas. » On s'en fiche, tout le monde a droit à sa danse. Il y a quelque chose... où c'est un des projets moi, qui m'a vraiment transformée dans cette sensation de savoir enfin ce pourquoi je faisais ça, c'était que c'était vraiment offert à chacun. Voilà.
Alors là, on va changer complètement d'échelle pour monter au niveau du ministère de la Culture. Quels sont les dispositifs en fait, que le ministère de la Culture met en place? Alors notamment là, on va parler plus de transition écologique, puisqu'on a bien vu, on en a parlé ce matin, c'est quand même un des enjeux extrêmement forts pour le développement de la culture en général. Donc quels sont les dispositifs et peut-être celui des résidences vertes dont tu peux nous parler un petit peu plus, Maxime?
Oui, merci. Je voulais aussi un peu vous parler, et je pense que je vais commencer par ça, de en fait, comment est-ce qu'on transforme l'administration pour derrière transformer le secteur. Je pense que c'est un peu le but de cette journée-là et c'est intéressant. Moi, je travaille pas pour la direction de la création artistique depuis très longtemps. J'arrive dans ma deuxième année. Au sortir du Covid, il y a un petit groupe d'inspecteurs et d'inspectrices de la création artistique, donc qui est un des corps de fonctionnaires qui, comme vous pouvez l'imaginer, vont inspecter les établissements dont on assure la tutelle pour voir s'ils font les choses plutôt bien ou plutôt mal. Mais c'est aussi un corps qui est censé produire de la connaissance et réfléchir sur les politiques publiques qu'on mène. Il y avait un petit groupe d'inspecteurs et d'inspectrices qui étaient assez motivés, qui voyaient qu'il y avait effectivement quelque chose qui se passait autour de l'urgence écologique et de la création artistique, et qui s'est un peu posé la question de comment est-ce que ça se confronte vraiment cette contrainte écologique forte, comment les artistes s'en saisissent, comment est-ce que les structures s'en saisissent, et comment est-ce que les politiques publiques peuvent un peu accompagner tout ça. Donc ça a donné lieu à un groupe de travail très régulier qui a commencé à faire de la veille artistique. Donc ça a donné lieu à la publication d'une revue que je vous invite à consulter, qui s'appelle Culture et Recherche sur l'urgence écologique et la création artistique. Donc qui a permis de brosser un peu un panorama de toutes les actions qui étaient en cours et qui n'étaient pas forcément dans notre radar. Et je pense que c'est intéressant aussi, j'y reviendrai. Et ce groupe-là a commencé vraiment à se former. C'est la deuxième grande action qui a eu lieu. Donc il y a eu un plan de formation assez important des agents de notre direction. On dédie, je crois que c'est quasiment un tiers de notre budget de formation à la transformation écologique. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et voyant que c'est quelque chose qui intéressait vraiment les agents, et de plus en plus, on est une vingtaine aujourd'hui d'agents de la DGCA et de la DRAC, ce qui est quand même pas mal, puisque nous, dans la direction, on est 175. Après, il y a quand même beaucoup plus de gens si on considère les RAC et tout ça, mais on a quand même une personne par service de notre direction, plus pas mal de DRAC qui s'investissent, qui viennent en réunion toutes les deux semaines, qui portent un projet en plus de leur mission. Et je vous assure que les missions, elles sont quand même assez nombreuses dans nos fonctions. Et en fait, la direction a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps et de l'inscrire vraiment comme étant une priorité de notre direction. Donc il y avait un plan stratégique qui est sorti, qui s'appelle Mieux produire, mieux diffuser, qui visait justement à accompagner la transformation du secteur de manière générale, qui fait face à une crise de la surproduction et de la sous-diffusion des œuvres, et d'inscrire vraiment la transition écologique à l'intérieur de cette priorité-là. Et on continue aujourd'hui au sein de l'administration à fonctionner sur le mode du groupe de travail. Donc c'est-à-dire que tous les dispositifs qu'on fait, en fait, on en parle au sein de l'administration. On fait pas du tout ça, nous, dans notre coin, dans notre bureau. Dès qu'on doit faire un truc, on discute à 20. On en parle avec le secteur aussi. On a mené des concertations avec le secteur professionnel, avec les organisations syndicales, avec les différentes fédérations et tout ça. Ce qui est aussi une chose nouvelle, de vraiment confronter tous nos dispositifs à chaque fois au secteur, de mettre autour de la table plein d'acteurs très différents pour résoudre un problème. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on s'occupe de la question de la LED, de savoir si c'était effectivement une bonne solution écologique ou pas, s'il fallait vraiment qu'on fasse ce grand bouleversement esthétique et technologique du passage à la LED. Donc là, on a réuni tous les acteurs, les constructeurs, les directeurs techniques, les artistes, pour savoir si effectivement c'était une bonne idée et comment l'accompagner. Et du coup, ça donne à la fin des dispositifs qui, je pense, sont quelque part un peu novateurs. Tous ces agents qui font partie du groupe de travail témoignent aussi des difficultés qu'on peut avoir dans les autres dispositifs, dans les appels à projets, dans les autres politiques publiques. Et ce qui fait que nous, on propose quelque chose de nouveau. Déjà, une nouvelle manière de fonctionner en tant qu'administration, et aussi des nouveaux dispositifs qui proposent aussi des alternatives. Donc, c'est le cas notamment d'un dispositif des résidences vertes, où là on s'est vraiment posé la question de se dire comment est-ce que on permet aux équipes artistiques de faire autrement et de créer autrement des œuvres. Et donc c'était à la fois comment créer différemment des décors, mais c'est aussi comment est-ce qu'on propose des œuvres qui sont beaucoup plus proches de la science, qui parlent bien de la biodiversité, qui sont ancrées dans la recherche. Et donc on a monté ce dispositif là qui était expérimental jusqu'alors et qui va devenir un vrai appel à projet de notre direction, où on a donné pendant 6 mois à 1 an une dotation de 20 000 euros à une équipe artistique pour chercher. Donc il n'y avait pas d'obligation de création derrière, c'était uniquement de la recherche, à la seule condition qu'ils s'associent avec un expert de la transformation écologique, qui pouvait être un chercheur ou une chercheuse, ou alors un ingénieur ou une ingénieure, n'était pas regardant sur le profil, et qui soit accueilli sur un territoire. Et ça a donné vraiment des choses assez incroyables. Donc les toutes les parties prenantes, à la fois les équipes qui les ont accompagnées au niveau de la recherche ou de la technique, ont vraiment transformé leur pratique et ont vraiment compris aussi quel était l'intérêt d'avoir des artistes qui sont un peu leur porte-voix quelque part. Il y en a beaucoup d'artistes aussi qui ont fondamentalement changé leur pratique, qui cherchaient le moyen depuis très longtemps de changer leur manière de faire et qui là, d'avoir 6 mois, 1 an sans obligation de création derrière, avec uniquement l'ambition de chercher, ont complètement changé même leur manière de faire. Et ça a donné des choses aussi un peu inattendues. Des projets de territoire, donc en fait, il y a eu à chaque fois dans chaque résidence, comme c'était des artistes avec des équipes de recherche qui étaient là pendant un temps très très long, ça a donné des rencontres inattendues avec des universités, des chasseurs, des chasseuses, des élus, vraiment un panel de gens extrêmement, extrêmement différents. Et aussi, ça nous a permis, nous, de faire ce dispositif qui est très différent de nos autres appels à projets, qu'on va par ailleurs faire évoluer pour avoir encore plus cette dimension de rencontre entre les chercheurs et les chercheuses et les équipes artistiques. Et ça nous a aussi permis de voir qu'il y avait tout un tas d'artistes qui échappaient aussi un peu à nos radars ou qui étaient un peu hors cadre, qui avaient des pratiques qui n'étaient pas conventionnelles, qui rentraient pas dans nos dispositifs de financement. Et donc ça, on a relancé maintenant tout un process de veille artistique en se disant quelles sont les nouvelles formes artistiques? Pourquoi est-ce qu'ils sont exclus de nos dispositifs? Comment est-ce qu'on peut les améliorer? Et on est reparti maintenant sur un cycle comme ça à partir de là.
Avant de vous réinterroger, Simon et Armel, sur les questions des publics et comment on fait ensemble avec les publics, qui me semble une question importante, je voulais faire réagir Fabrice. Vous pourrez réagir après sur la question du faire et de la participation. Mais vous, quel regard vous portez, en tant que chercheur, entre autres, sur la culture, avec finalement aussi tout ce que vous avez pu entendre depuis ce matin et là? Comment tout ça interroge, en fait, aussi le futur des politiques culturelles et des pratiques culturelles?
Pour commencer, on peut peut-être dire que ce qu'on fait depuis ce matin, c'est-à-dire parler de la culture au singulier, c'est se planter, en fait. C'est un gros problème parce que quand on analyse les pratiques culturelles à l'échelle nationale ou autre, on se rend compte de la diversité des pratiques et surtout des pratiques hors institution. Et ce qu'on fait depuis ce matin, c'est parler d'un type de culture qui est fort intéressant, qui a beaucoup de sens et sur lequel on peut revenir, mais qui n'est pas la culture, qui est la culture institutionnelle portée par des professionnels de la culture et même les expériences qui ont été présentées précédemment, qui se disent alternatives, non, elles relèvent de la même logique, du même langage. Et la ressource qui a été mobilisée tout à l'heure, la première ressource qui est mobilisée durant cette journée, c'est cette capacité à parler de ce qu'on fait en termes artistiques, en termes ministériels, en termes d'être capable de remplir 25 dossiers à la suite. Voilà, donc c'est un langage qui est une ressource, une compétence, et qui est très excluante. Vous posiez la question, pourquoi certaines compagnies ou formes théâtrales, alors je ne sais pas quel est votre cas en fait, ne peuvent pas accéder à ces subventions? Eh bien, c'est très souvent, le premier niveau est un niveau de compétence. Alors moi, je suis responsable d'un master culture, et on forme les étudiants à répondre, à adapter ce langage professionnel. Voilà. Donc là, on est sur une forme culturelle que j'appelle la culture institutionnelle. Alors cette culture institutionnelle, je me suis aussi demandé par rapport à cette journée, comment se fait-il que cette culture institutionnelle se saisisse aussi fort de la question écologique, écologiste, écologique, je ne sais pas comment l'appeler, sachant que la pratique, la production ne représente qu'à 1,9%, alors c'est toujours difficile de calculer, des émissions de CO2 en France. Donc, pourquoi, alors que d'autres professions ne la traitent pas, en tout cas aussi, de manière aussi importante. Alors, pour comprendre ça, il faut peut-être revenir à la logique de cette culture institutionnelle, qui est une logique qui est assez particulière, qui vient de la culture bourgeoise du 19e siècle, de la culture bourgeoise qui s'est construite contre l'aristocratie et contre le peuple, au tournant de la Révolution française, et qui construit la culture comme quelque chose qui relève du savoir et de la connaissance, et par extension, qui relève de l'émancipation et de l'éducation. Donc le projet du ministère de la Culture, et le projet de Malraux, lorsqu'il inaugure le ministère de la Culture en 1959, je le cite, c'est « la culture existe, si la culture existe, ce n'est surtout pas pour que les gens s'amusent ». Donc là, on a tout un programme qui est de l'ordre, en effet, et c'est tout à fait louable, je ne porte absolument pas de jugement de valeur, c'est-à-dire d'éduquer, d'émanciper. Et le texte d'Ariane Mnouchkine dans Libération en juin dernier, c'est le constat de cet échec Le constat de cet échec de l'éducation aux politiques, notamment, et le vote Front National. Alors là, c'est toute une profession qui se remet en cause. Et donc on en est là aujourd'hui. Et la question écologique, elle revient comme ça aussi de cet ordre. Ce matin, j'étais un petit peu quand même surpris de voir avec quelle condescendance, bien que je respecte tout à fait leur travail, et je ne les soupçonne absolument pas de cynisme, et néanmoins une certaine condescendance envers les publics, puisqu'il était question d'apprendre durant le festival... comment ça s'appelle ? Vert, moins les européennes, mais il était vraiment affiché que le propos, c'était d'éduquer ces populations aux gestes qui sauvent. Comme si les personnes... Alors, j'étais à Bobigny, à la MC93, il y a peu de temps, sur le même sujet, et une personne de banlieue issue d'immigration, de famille pauvre, expliquait que dans les familles pauvres, on ne gaspille pas, en fait. Donc là, il était question d'éduquer les populations, mais les populations, elles ne sont quand même pas totalement... dépourvu de compétences sur ces questions. Voilà. Donc, on est dans une logique institutionnelle qui est de l'ordre de l'éducation, qui est... Alors, on pourrait parler des formes artistiques qui vont avec, hein, mais bon, c'est un autre sujet. Voilà ce que je pouvais dire à ce moment-là.
On va reparler de culture apollinienne et de culture dionysiaque. Justement, on pourrait revenir sur pourquoi est-ce que, alors que la culture ne représente peut-être que moins que 2% des émissions, pourquoi on se préoccupe d'écologie. Pour moi, pour aller un peu plus loin dans la provocation, c'est la même chose que les gens qui disent « mais la France ne représente qu'1% des émissions carbone dans le monde, pourquoi est-ce qu'on s'en préoccuperait ?» Donc ça, mais ça, c'est, je laisse ça à votre réflexion. Pour pousser là-dessus, justement, comment on sort de cette logique d'accès à l'œuvre, en fait ? Et voilà, on en sort aussi par la participation. Et donc, Armel, comme Simon, on va recommencer peut-être avec toi, Armel. Sur ton territoire, tu t'es vraiment impliqué avec les habitants dans le cas des semaines poétiques. Et vous construisez finalement, avec les compétences de chacun, des formes différentes, nouvelles, qui semblent répondre en tout cas à une approche différente, effectivement, là, de la culture. Dans les images que j'ai juste une image pour la montrer de l'inauguration du viaduc Sassangis-Bruxelles, par exemple. Tu peux peut-être aussi nous parler de ça.
Moi, la notion que j'ai envie d'apporter avec ça, c'est artiste habitante. Le premier postulat, c'est peut-être dire que voilà, quand on est artiste, on n'est pas juste artiste, on est juste habitant d'un territoire. Et à ce titre-là, on participe à un territoire à plein d'aspects différents. Et c'est par toutes ces entrées-là, en fait, qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Et que du coup, en tout cas, nos propositions... Donc moi, j'habite dans un petit village de 140 habitants. J'ai dansé... justement sur les pas de porte de ce village-là. L'année d'après, avec mon compagnon qui est poète, on a proposé une semaine poétique parce qu'on est tombé en amour avec ce village. Et donc, ça sans J s'est transformé en ça sans bon. Voilà. On a changé les pancartes, on a écrit de la poésie sur les moutons. Et donc, on a renommé les rues avec la mémoire des gens. Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'en fait, je me rends compte que on ne part pas avec un projet de « je veux faire ça », on part de ce qui est là. Et l'idée, c'est de mettre en lumière ce qui est déjà là, parce que c'est ces gens qui savent, c'est ces gens qui connaissent le territoire. Et c'est plutôt comment moi, je m'appuie sur ce qui est, et puis moi, j'ai des compétences. Peut-être, comme tu disais, Hélène, de parler avec telle ou telle personne, de mettre en lien. Oui, j'ai des compétences peut-être de construire des projets. Je me sers de ça, en fait. Mais en fait, ce n'est pas moi qui ai fait le boulot. C'est parce qu'il y a des agriculteurs. Cette année, on a fait s'assembler. Donc, c'était en lien avec les 6 familles d'agriculteurs qui étaient sur le paysage, qui étaient sur le territoire et qui clairement dessinaient avec leur exploitation, le territoire, on est parti d'eux. Et j'ai l'impression, je donne un petit exemple, parce que pour moi, il est incroyable. On a un des agriculteurs qui était tellement content qu'on prenne en photo. Déjà, d'une part, il est chasseur. Et ce chasseur, il a dit, avec les chasseurs, on va offrir un sanglier à la broche pour tous les habitants. Voilà. Et puis un autre a dit, je lui ai demandé si on pouvait utiliser son tracteur et s'il pouvait tracter les musiciens lors d'un parcours poétique où il y avait toutes les photos de ces agriculteurs autour du village. Il a dit oui. Et il a demandé aux musiciens, mais il y a mon ami Jean-Michel là, qui est enterré là. C'était un clown, il adorait, je ne sais plus ce que c'était, une musique de Itinéraire d'un enfant gâté, de Lelouch. Et vous pouvez le jouer ? Oui, on va le jouer. Et je peux mettre un nez rouge ? Oui. Donc il était sur son tracteur avec le nez rouge. Et les musiciens ont joué, il s'est arrêté et il a parlé devant tout le monde au cimetière. Pourquoi il jouait ça ? C'était énorme. Ça m'aime déjà. Non, mais moi j'ai l'impression qu'en fait il faut s'appuyer sur ce qui est là, en fait. Alors évidemment il y a des freins à ça, c'est-à-dire qu'on pense, on passe quand même pour encore pour plein de gens comme des guignols, d'amener de la poésie dans notre village. Et puis bah là il y avait la Comcom qui a pondu un projet, le Festival de la Pierre. Je vous avoue que j'étais pas pour parce que vraiment ça sortait un peu de nulle part. Et donc, mon compagnon qui est belge a proposé de faire une inauguration de la pose de la première pierre du viaduc Sassangis-Bruxelles. Et donc, gros canular évidemment. Et donc 40 personnes impliquées, donc des manifestants. Le projet Sassanterre, on est à Sassangis. C'était le jour des droits des femmes. C'était. Voilà, oui, non, au viaduc, oui, à la Via Duchesse, enfin bon, bref, fumigène, tout ça. Il y avait des gens qui sont deux ingénieurs dans notre village qui ont fait des PowerPoint avec la construction, combien de tonnes, combien de 10 ans de travaux, le budget, 40 milliards à la région. Et ce qui était génial quand même aussi, c'est que, je sais pas, beaucoup d'officiels se sont donné le mot, la sénatrice est venue, c'était un truc incroyable. Enfin bon, la sénatrice, le président de la région, enfin c'était pas du tout prévu évidemment. Ce qui a été génial, c'est que du coup, on leur a dit tout de suite, il faut jouer le jeu. Donc ils ont fait des discours, ils ont promis du coup 40 milliards pour le viaduc. Voilà. Et les gens ont vraiment questionné qui était comédien et qui ne l'était pas. La sénatrice, même moi, je... Voilà. Donc, en tout cas, c'était aussi un vrai questionnement pour moi d'aller... Et donc, ce projet, 150 personnes qui sont venues, pour notre village, c'est quand même énorme. Et surtout, pour moi, c'est qu'il y a 3 personnes de notre village qui, clairement, étaient contre ces projets, qui sont venues et qui ont dit merci. Parce qu'ils avaient tellement ri, voilà, parce qu'il y avait quand même le terrassier qui est venu avec son tractopelle, qui amenait le ministère des Affaires étrangères belge sur son godet, voilà... Donc il y avait, enfin moi je cherche, on cherche les leviers possibles pour créer ensemble. Parce que moi, j'ai fait des années que je fais des projets de territoire, des projets de parcours contemplatif au lever du jour. Mais je chope toujours les copains, quoi. Je chope les gens qui sont comme moi. Mais franchement, quel est l'intérêt ? Absolument aucun. Si je peux choper mon voisin qui est chasseur, mais je suis contente. Je suis tellement contente parce que il y a des endroits où on partage quelque chose.
Formidable, parce qu'on voit que le faire ensemble, ça nous concerne tous, parce que c'est vraiment ça aussi cette journée, c'est comment on arrive aussi à faire ensemble. Et donc ça nous fait une très belle transition, toi Simon, parce que finalement, dans ce que tu fais en art numérique, la question se pose de savoir qui crée, en fait. Qui est l'artiste ? Est-ce que c'est pas aussi un peu le public ?
Eh ben, dans ce qu'on essaie de développer, si justement en fait la technologie et l'art qu'on met en avant, il est justement à disposition du public, des fois un peu comme un espèce de sac de Lego d'un artiste qu'on dirait en public, bah vas-y, fais, amuse-toi avec et fais ce que tu veux. Et nous, ce côté, en fait, si on travaille vraiment avec la technologie, c'est vraiment pour ça, pour que ça soit vraiment justement hybride et hyper facile. Pour le public, on n'est pas du tout des techno-solutionnistes. Moi, je me suis persuadé qu'au contraire, on fonce à la vitesse de l'éclair, droit dans le mur, dans cette espèce d'augmentation constante de la technologie. C'est pas du tout ça l'idée. Au contraire, c'est plutôt de la détourner. Et c'est surtout, du coup, d'utiliser l'art justement comme moyen de, par rapport à ce que tu disais, moyen de créativité, moyen d'imagination, moyen de ce genre de choses. Moi, je veux pas leur dire genre regarde ça c'est super, c'est un mapping, t'as vu le bâtiment, il est en train de bouger, c'est génial. Ouais, d'accord, mais alors vas-y maintenant, si toi t'as le bâtiment en face de toi, est-ce que tu peux là tu peux changer la couleur du bâtiment, tu peux changer sa forme, tu peux modifier ce qui t'entoure à ton image. Et nous, on utilise vraiment la technologie, voilà, vraiment dans ce sens précis. Là, voilà quoi. Donc, pour moi, voilà. Donc un rapport globalement différent. Et puis là aussi où des fois c'est assez compliqué à expliquer, c'est que nous on est quand même beaucoup co-concepteurs d'œuvres en fait. Et moi j'arrive pas trop à savoir des fois si je suis producteur, rapporteur. je sais pas trop. Et puis en même temps, on travaille avec des artistes, ils ont carte blanche sur, évidemment sur ce qu'ils font, les développeurs aussi, mais à la fin, l'usage qu'on voudrait, ce serait quand même celui-ci. Donc moi, le positionnement, même par rapport quand je bosse avec des chercheurs sont artistes, d'autres pas du tout, enfin bref, c'est toujours une espèce de méga vélo avec 200 roues, quoi, différentes. Quoi.
Maxime, si tu veux rebondir aussi sur cette question, tu en as déjà parlé aussi un peu forcément dans les résidences, mais tout ce que ça change, le fait de soutenir, le fait de travailler ensemble pour les artistes, pour des gens qui ne sont pas des professionnels, comment vous arrivez aussi à prendre ça en charge au ministère de la Culture? Après, je ferai réagir Fabrice.
Simplement, avant, je vais quand même juste préciser qu'en fait, on ne connaît pas du tout les impacts écologiques du secteur de la culture. Donc, difficile de dire si c'est 1,9, 2, 3, 4... Ce sont des émissions, sachant que 4%, ce qui est un peu nous, enfin, je pense qu'on va plutôt tendre vers ça, c'est à peu près autant que l'aviation civile. On parle beaucoup d'arrêter de prendre l'avion pour aller à Bali en vacances. On parle beaucoup moins d'aller voir des spectacles. Pourtant, l'impact est le même. Donc, je pense que c'est une première raison pour laquelle les acteurs culturels commencent à se soucier aussi de la réduction de leur empreinte. Il y a une deuxième raison pour laquelle ils le font aussi, et je pense que celle-là, elle est beaucoup plus importante. Et en tout cas, nous, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien, c'est que derrière des impacts, il y a de la matière, et cette matière qu'on a de moins, enfin qu'on exploite de plus en plus et qui est en quantité de plus en plus limitée, donc forcément qui coûte aussi de plus en plus cher. On connaît la situation économique du secteur de la culture en France. Et malheureusement, là, il y a des chocs successifs qui s'imposent aux acteurs avec une hausse des prix de l'énergie. On en a parlé tout à l'heure à propos de ce même chapiteau. C'est idem pour le coup des matières premières. Donc, une des vraies raisons pour laquelle les acteurs culturels doivent absolument rentrer et considérer leur impact, c'est aussi pour assurer leur résilience. Désolé pour le mot, mais en tout cas c'est vraiment l'idée d'assurer la résilience à long terme du secteur. Après, sur la question de faire ensemble, nous, enfin, je vous l'ai dit, j'en ai un peu parlé, c'est en tout cas vraiment notre manière de fonctionner pour la création des politiques publiques, et c'est aussi la manière dont on incite les structures à se saisir de cette question-là. Donc on a créé une politique publique qui s'appelle le cadre d'action et de coopération pour la transformation écologique, le CACTE, donc pour l'acronyme, vous l'avez toujours, la résilience, la plante dans le désert qui consomme très peu d'eau. Et en fait, au cœur de cette politique publique, il y a un engagement de méthode qu'on impose à toutes les structures qu'on finance de manière pluriannuelle, donc des structures plutôt importantes. Donc là aussi, on impose ça à des structures qui ont les capacités de prendre en charge cette transformation. On l'impose pas du tout à l'ensemble du secteur, même si cette politique-là est vue de manière très pédagogique comme un guide, où là, pour le coup, c'est pas du tout le secteur subventionné qui peut s'en saisir, mais c'est n'importe quelle compagnie, structure public, privé, subventionné, pas subventionné, à n'importe quel niveau de structuration, peut s'en saisir pour se lancer dans des démarches de réduction d'impact. Et au cœur de cette politique-là, il y a notamment le fait de faire ensemble. Donc il y a notamment une première étape qui est de faire ensemble au sein de son organisation. Donc on préconise vraiment de se dire structure par structure, posez-vous, réfléchissez avec tous les membres de l'organisation comment est-ce que vous pouvez faire évoluer vos pratiques. Et donc on ne préconise pas du tout que ce soit quelque chose qui vienne de la direction ou que la direction impose à une personne de la structure un rôle supplémentaire qui serait pas forcément avec du temps de travail dédié ou un budget, etc. Mais vraiment de se dire faites une démarche collective au sein de l'équipe. Ensuite, que cette démarche-là, elle soit partagée avec l'ensemble des parties prenantes, parce que en fait, il y a beaucoup d'impacts qui vont dépendre des partenaires, des prestataires, des publics, des artistes qui vont venir. Donc de se dire, discuter avec vos collectivités, discuter avec les artistes qui viennent, discuter avec, avec vos publics, avec les autres personnes qui vous financent, avec vos prestataires, et trouver des solutions ensemble. Trouver aussi des solutions en dehors du secteur culturel, et ça c'est vraiment quelque chose que nous, on encourage, et on voit que les meilleurs parcours de transformation, les meilleures actions, celles qui ont vraiment le plus de sens, c'est celles qui sont faites avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs du secteur culturel. Et ça, c'est vraiment, je pense, aussi un changement assez important dans nos manières de faire. Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure avec la relation entre les Eurocaen et la Maison de l'Environnement. Ça, c'est un parfait exemple des nouvelles coopérations qu'on aimerait bien impulser. Et après, il y a un dernier niveau de coopération qui est celui de se réunir au sein d'un secteur et de réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques en ayant un échange entre pairs, donc c'est-à-dire en appelant, en ayant telle solution qui peut être implémentée dans un autre théâtre. Et ça, ça se fait par les associations professionnelles qui existent déjà, qui représentent le cirque, le théâtre, les marionnettes, la danse, la performance, et que sais-je. Ou alors, vraiment, ça peut se faire aussi au sein d'associations comme Arviva, qui est une association qui regroupe plein de structures que les questions écologiques intéressent et qui coopèrent et travaillent ensemble pour trouver des solutions pour améliorer les pratiques.
Fabrice, je vais vous faire réagir sur cette question de la participation et du faire ensemble, parce que là, on a quand même un levier, quelque chose de très important qui nous permet de voir la culture ou les cultures tout à fait autrement.
Oui, alors je m'interroge sur cette notion de faire ensemble, sachant qu'on fait toujours ensemble. Le fondement des politiques publiques culturelles en France est erroné. Il est erroné, c'est-à-dire que cette idée que les populations n'ont pas accès à la culture est fausse. Elle est fausse. Les populations n'ont pas accès à la culture institutionnelle très souvent. Mais pire, les populations évitent la culture institutionnelle. Pour quelles raisons ? Ça revient à peu près à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont allés à l'école très longtemps, nos jeunes Français, et ils ont très souvent souffert en plus de ce système pédagogique un peu étrange. Et on leur redemande, on leur repropose via l'action culturelle de comprendre le monde, de réfléchir, de... toute chose qui ressemble beaucoup à l'école et qui renvoie à cette culture bourgeoise que j'évoquais et que j'apprécie par ailleurs, qui est tout à fait louable. C'est un enjeu tout à fait pertinent de vouloir éduquer les populations, ouvrir, émanciper, etc. C'est pas la question. Sauf que la plupart du temps, quand je fais des interviews en face du Macval, dans une cité HLM, lieu d'art contemporain, que les habitants me disent « ce n'est pas pour moi et je ne veux pas y aller ». En plus, j'y suis allé avec l'école et je me suis bien emmerdé, me disent-ils. Je synthétise, mais on est très proche de ces termes. Donc la notion qui est associée à la culture parmi les populations est la notion de plaisir. Et ça paraît d'une banalité affligeante de dire ça. Mais la notion de plaisir, elle est souvent cachée derrière ces enjeux. Un bon spectacle de théâtre, c'est quelque chose qui m'a fait changer ma vision du monde, changer ma vision de cette question, le handicap, ceci, etc. Toujours avec des aspects très moralisateurs en plus, mais je ne vais pas insister là-dessus. Donc voilà, le faire ensemble, il va déjà partir peut-être de la reconnaissance de ce qui se fait déjà ensemble, et vous l'avez évoqué, je pense que c'est très important, dans une vision non descendante, mais d'état des lieux finalement. La pratique théâtrale la plus développée en France, des centaines de milliers de personnes le font chaque week-end. Et j'enseigne à l'Institut d'études théâtrales à Paris 3. Aucun enseignant, un étudiant n'est capable de me répondre. Ce sont les reconstitutions historiques. Hein, chaque week-end, des centaines de milliers de Français se pressent dans des festivals de reconstitution historique. Alors on va dire, c'est pas la culture. Qu'est-ce que c'est que la culture ? C'est l'accès à une expérience esthétique culturelle, définie par trois notions, Jean-Marie Schaeffer, l'émotion, le plaisir et un dispositif d'attention. C'est très simple. Et les personnes, les populations, quand ils vont se déguiser en chevaliers du Moyen-Âge, ils jouent des rôles. Il y en a qui jouent le Napoléon, il y en a qui jouent des reconstitutions historiques, comme ça, ils sont des acteurs. Il y a des concurrences d'ailleurs entre eux. Et ben, ils ont accès à ce moment incroyable, hors du temps, hors du commun, qu'on appelle l'expérience esthétique culturelle. Et ça, ça a du sens pour les populations. Et ça existe. Et ça peut être aussi bien du reenactment que du cosplay, que tout ce qui se fait dans le numérique autour du jeu vidéo. Il y a des personnes jouent au jeu vidéo pour se promener dans les paysages. C'est quand même incroyable. On en est compte. Et on leur dit, mais non, mais vous n'avez pas de culture, d'expérience esthétique. Si, c'est son. Et chaque milieu social construit sa propre expérience esthétique. Et le fantasme du faire ensemble, il est peut-être là. Et c'est un fantasme politique. C'est le fantasme du lieu culturel ouvert à tous. J'y crois pas un seul instant. Le fantasme du commun généralisé à l'échelle, c'était le fantasme de Malraux. Hein. Malraux voulait faire de la culture. C'est une politique nationaliste de grands événements qui font repères nationaux. C'est très louable. Mais y a des divergences, des différences dans la population qui ne permettent pas de faire d'une culture un rassembleur commun universel.
Alors merci pour ces pistes très stimulantes. On a dans la salle le fondateur du Necronomicon, une convention geek qui s'est tenue à Belfort il n'y a pas très longtemps. Donc en matière de cosplay, Stéphane, si tu voudras réagir tout à l'heure, on a pas mal de choses qu'on pourrait dire. Armel, ça rejoint peut-être aussi un peu ce que tu me disais au téléphone quand on se parlait. Tu me disais, mais des fois, on a besoin aussi de sortir de ces thématiques d'actualité. Parce que la culture et l'art, c'est aussi juste le rapport à la beauté. Est-ce que ce n'est pas aussi ça ? C'est l'émotion.
J'arrive d'une tournée à pied 15 jours avec Stéphane, mon compagnon poète, tourné à pied en Belgique dans les écoles primaires rurales, et on a parlé de beauté. En fait, on s'est rendu, enfin, de toute façon, moi je crois que ce qui nous relie, s'il y a quand même quelque chose qui nous relie, peut-être ça ressemble à ce que vous disiez. Pour moi, c'est la beauté. C'est le rapport à qu'est-ce qui fait que mon cœur il s'ouvre à un moment, quoi. Et ça, je crois que ça rassemble tout le monde. Et j'étais renversée, donc c'était avec des gamins entre 6 et 12 ans, j'étais renversée comment cette thématique, justement en dehors de toutes les thématiques qu'on nous dit d'aborder, que je trouve louable, mais en fait d'une thématique qui est en lien avec la joie, juste d'être en vie, comment c'était fédérateur et comment j'étais retournée par ce que les enfants offraient et ce qu'ils avaient à dire, c'est quoi pour moi la beauté, quoi. Donc on avait des cartes postales avec une poésie qu'on leur offrait, et ils devaient écrire, enfin on leur proposait d'écrire suite à un atelier corps en nature avec moi, où ils nous partageaient ce qu'ils trouvaient beau par un geste. Ils écrivaient une petite poésie qui était donnée aux enfants de l'école d'après. Et puis ces mêmes enfants écrivaient à d'autres, et donc on était facteurs de beauté entre les enfants. Et oui, ça m'a remis dans cette sensation que peut-être revenir à quelque chose de absolument. Moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui nous relie profondément, c'est ça. C'est cette joie pure qu'on a tous.
C'est très bien, ça va nous permettre de finir aussi sur des émotions positives. Peut-être juste avant qu'on ait un petit échange avec le public, parce qu'on arrêtera à 17h20. Simon, je pense que toi, tu pourrais réagir, alors sur la question de l'émotion, mais sur ce qu'a dit aussi Fabrice, du « c'est pas pour moi », avec ce que vous faites, par exemple, ce projet sur le jeu vidéo et les filles des quartiers populaires. Peut-être que ça répond quand même aussi bien à cette question de « c'est pas pour moi ».
Eh bien, justement, quand on parlait d'appeler ça une œuvre, une installation ou un jeu vidéo, en fait, on s'adresse déjà d'une autre façon. Et oui, moi, typiquement, alors, en plus, moi, je suis pur produit de la scène, des scènes nationales. Je travaille dans un CDN, une scène nationale et une SMAC. Donc, alors là, je pense que j'ai tout coché. Il manque le frac et je crois que c'est bon. Et donc, il y avait justement cette discussion, mais depuis des lustres, autour du public. Et je travaille dans une scène nationale qui est au cœur d'un quartier qui s'appelle Planoise, à Besançon, où on se disait, genre, ouais, mais les gamins, les parents, ou les mamans, justement, on parlait beaucoup des mamans, ne rentrent pas dans le théâtre. Bah ouais, évidemment, quoi. Quand on fait de la danse contemporaine improvisée, évidemment, c'est compliqué de faire venir comme ça. Bref, du coup, là, par rapport à l'association, on prend le truc justement dans l'autre sens. Là, on a eu un projet où l'idée c'était de susciter la vocation numérique d'adolescentes. Et nous on a tourné le truc en se disant bon, on va pas leur faire des formations sur comment tu montes ta boutique en ligne et tout ça, etc. On va leur apprendre à faire un jeu vidéo qui est en fait une œuvre artistique. C'est un mur interactif, on le touche le mur et il se passe des trucs dessus. Et du coup pendant un an c'est en cours en ce moment, on les forme à écrire un jeu, réfléchir à un jeu ensemble, le dessiner, l'animer, faire du code et tout ça, etc. Et compagnie. Et en fait, ces filles, au début, alors déjà, on est passé par des assos pour évidemment les rencontrer et tout ça, parce que moi, je connais plein de gens à Besançon, mais pas tout le monde. C'est ce rapport-là au jeu, à la création, en fait. On n'a jamais parlé vraiment, on n'a jamais dit le mot art. Jamais. Ça dure un an. Et en fait, c'est ce truc-là qui a fait qu'en fait, elles sont complètement à fond, et que en fait on a créé des canaux de discussion spéciaux pour elles, entre elles et avec nous. Alors du coup j'ai dû apprendre à utiliser TikTok par exemple. Ouh, c'était un vrai choc. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est qu'à la fois, on parlait du faire ensemble, mais c'est aussi du coup de l'idée de créer une espèce de communauté de meufs un peu active, un peu geek aussi sur ce côté-là, et qu'elles puissent s'emparer, en tout cas, vraiment de cette notion informatique entre guillemets, où là, on leur met à disposition un ordinateur qu'elles peuvent garder pour leur usage et tout ça pour travailler dessus toute l'année. Et ça, là, on sent qu'il y a quand même une vraie communauté qui s'est montée, en tout cas. Et à la fin, elles font vraiment une installation artistique qu'on présente dans le cadre d'un festival. Et elles sont hyper fières de le présenter. Elles veulent faire la médiation et tout ça, etc. quoi. Alors qu'à la base, elles faisaient un jeu vidéo.
Merci, vous êtes respecté parfaitement tout ça. On a 20 minutes pour des échanges avec la salle et je pense qu'on a soulevé sans doute pas mal de pistes ou de choses assez stimulantes. Peut-être, je vais peut-être un peu susciter la première réaction. Je sais pas, Stéphane, tu veux nous dire quelque chose sur le cosplay dans la culture ? C'est quand même, je pense que c'est quand même intéressant. C'était il y a 2 semaines, la Necronomicon. Donc, peut-être nous dire, vu le succès que ça a, peut-être qu'effectivement, il y a une question de culture populaire intéressante autour de ces usages-là.
Voilà. Sur la question du cosplay, effectivement, moi, ça m'a fait réagir, évidemment, parce que je m'occupe d'une convention geek depuis 8 ans maintenant. Et effectivement, on s'interrogeait tout à l'heure avec mon voisin en se disant, bah, tiens, bah, est-ce que c'est de la culture ? Alors, moi, je dirais, c'est faire ensemble, parce qu'en fait, je suis passé à la télé à France 3, et en fait, à France 3, ils m'ont posé la question, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Et en fait, je leur ai dit qu'en fait, il y a autant de trucs à voir dans les allées que de venir à notre événement, parce qu'en fait, dans les allées, il y a les gens qui sont cosplay, et en fait, c'est eux qui font le truc. En fait, la moitié de l'activité, c'est aller se prendre en photo avec le mec qui est déguisé en Dark Vador ou un truc comme ça. Mais du coup, est-ce que c'est une forme de culture, hein, parce qu'ils font partie de l'œuvre artistique, hein, je sais pas si c'est une forme de culture. Ouais, ils fabriquent leur costume en entier, ouais, c'est obligatoire, ouais.
Il y a ça, et puis ils font aussi des scénettes, ils jouent à nouveau, c'est à nouveau du théâtre, il y a une mise en scène, des décors, donc quand ils jouent, il y a cette expérience esthétique, quoi. Il y a de l'émotion, c'est même un point culminant dans une semaine, dans un trimestre, tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à nouveau. Et c'est aussi une des autres dimensions de la culture, c'est ce moment où toutes les règles sociales sont complètement... elles sont remises en cause, et puis on a le droit de pleurer, on a le droit de faire plein de trucs qu'on n'a pas le droit de faire dans le monde normal, quoi. Donc il y a toutes ces... Et de ce fait, ouais, j'ai pas une définition de la culture très, mais c'est très précis. Émotion, plaisir et dispositif socio-technique, je dis, en tant que sociologue. Bon, c'est un peu compliqué, mais un peu chiant même.
Alors Manu, tu voulais réagir.
Petite remarque, parce que là je voulais pas forcément reparler, mais ça me semblait important de faire le lien avec ce que t'as dit, Fabrice, où c'était essentiel de rappeler la question de la domination culturelle. Ça, c'est une évidence. Donc là, dans les enquêtes, effectivement, on le montre qu'il y a une reproduction sociale par ceux, voilà, une captation du culturel par ceux qui font leur métier et qui sont les gagnants de l'école. Donc ça, c'est indéniable. Effectivement, les enquêtes le montrent, c'est pas un sujet. Pour autant, ce qu'on a vu quand même précédemment, notamment, c'est aussi des personnes qui essayent de déjouer aussi ce dispositif scénique dont tu parlais. Hein. Tu as parlé de ce dispositif qui inscrit en lui-même une domination, où il y a une scène, il y a des gens qui sont en représentation, des gens dans une forme de passivité, même s'il y a des enquêtes sur les publics qui disent que, voilà, quand même, ils ont un peu d'autonomie là-dedans. Bon, le dispositif est quand même là. On a quand même des gens qui le montrent et qui sont sociologisés aussi, hein, qui connaissent ces enjeux de domination et qui essayent, je pense avec Hélène, je pense aussi voilà, le bibliobus, qui essaye d'intégrer par la pratique les personnes qui pourraient se sentir exclues effectivement des pratiques culturelles ou des pratiques culturelles normalisées. Donc même si tu as raison de le rappeler, je pense que on peut aussi relever le fait que dans ces alternatives-là, des gens essayent comme ils peuvent de faire autrement. Et je pense que c'est aussi important de les valoriser. Et je crois qu'on est là aussi pour ça, effectivement. Quoi. Mais ce n'est pas pour remettre en question ce que tu dis. Hein, c'est pour juste rappeler ce cadre-là. Quoi.
On est là pour débattre. Peut-être prendre 2 autres réactions avant de repasser le micro à nos intervenants.
C'était histoire d'abonder dans la jonction entre les deux espèces, institutionnelles et non institutionnelles. Justement, de culture. On parlait tout à l'heure du théâtre de week-end fait par des amateurs. Oui, effectivement, pour avoir traîné dans les milieux de théâtre amateur. À Masvaux, pas très loin d'ici, il y a La Passion du Christ tous les étés en alsacien, dans un théâtre qui lui est intégralement consacré. 8000 spectateurs par été, dont des bus de japonais. Alors, la moitié de la vallée ne parle plus alsacien, mais il y a en plus des Japonais. Donc, et ils font quand même 8000 spectateurs par mois, par été. À peu près n'importe quel, enfin, la Rouge Goutte, un autre tout petit patelin, ils ont un tout petit théâtre. Il y a un club de théâtre au sein du village. Ils remplissent 250 personnes par représentation, 4 représentations par week-end, en un mois, sur le mois de représentation. Ça leur fait 4000 spectateurs. Ça rigole absolument pas, quoi. Ce sont des chiffres qui feraient rêver plus d'une salle. Et pour ce qui est de la jonction art populaire et cité, histoire d'utiliser le mot fâcheux, alors je me souviens d'une installation de Benjamin Golon qui avait fait un Pong en flash. Vous vous souvenez de Pong ? C'était juste un petit curseur qui se déplaçait et puis il fallait récupérer la balle, quoi. Et il avait installé ça sur un vidéoprojecteur et il pouvait rajouter des obstacles. Hein. Et donc il découpait les fenêtres, il découpait les gouttières, il découpait les balcons. Et les gens pouvaient venir jouer avec leur propre façade. Et je vous jure, il y avait la queue. Mais les gens venaient se battre pour jouer avec l'œuvre. C'était génial.
Alors, je fais déjà réagir, et comme ça, si quelque chose vous vient, on pourra en reparler. Alors, juste parce que tu es plus près de moi, si tu veux réagir aussi, parce que tu connais bien ça, toi, les jeux sur les façades.
Puis je connais bien Benjamin aussi, justement en question. Oui, ben en fait, il y a vraiment cette approche-là, et le fait de s'approprier quand même son espace. Justement, on parlait de jouer dans son village, dans sa ville et tout ça, etc. Ça, je trouve, moi, c'est vraiment un truc qui est vraiment important de rendre vraiment le public vraiment acteur du truc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche vachement. Et pour avoir bossé justement dans différentes institutions, je trouve que c'est quand même vachement... c'est parce que ça a été construit comme ça aussi, un peu ces modèles-là, mais toujours un peu descendant, quoi. Et là, le fait de pouvoir essayer de mettre tout ce monde-là, justement, à ce niveau-là, et ça, c'est des vrais sujets dont on a parlé beaucoup, justement, avec Benjamin, avec qui on a monté un petit réseau et tout ça, etc. Et je pense que l'idée, enfin, en tout cas, le nouvel accès, il est, à mon avis, ici.
Fabrice, une réaction à ce qui a été dit ?
Oui, d'abord, sur la question de la domination, en effet, bon... Moi, j'ai une inspiration très certiste de Michel de Certeau ou Cultural Studies. Et je vois se créer les pratiques sous domination, peu importe, quoi. Je pense à la seule musique qui a été créée sur le territoire français, qui s'appelle le Zouk. Dans quelle salle on en programme ? Dans quel festival en métropole ? Que fait le ministère de la Culture sur le Zouk ? Voilà. Oui, donc, et je peux faire le lien aussi avec l'industrie culturelle, pour le coup, parce que le zouk est une industrie. Vous voyez, même des pratiques comme ça qui ont l'air minoritaires. Voilà. Et je sors aussi... Alors, j'écris souvent culture apollinienne, que tu as évoqué, culture dionysiaque. Je fais souvent de manière pédagogique. Mais c'est bien plus compliqué que ça, on est d'accord. Et Michel de Certeau nous parle de la culture... industrielle, l'industrie culturelle, comme non pas de la consommation, mais toute consommation est une production. Le cosplay, c'est la réappropriation des blockbusters par les populations. Donc c'est la forme de domination détournée, quoi, et réappropriée, réinventée, réinterprétée. Voilà. Donc voilà, j'aime bien. Voilà. Dernier point, le relativisme culturel. Parce qu'on m'accuse souvent de ça. C'est-à-dire que je refuse cette critique de mon travail parce qu'on n'est pas du tout dans le relativisme à partir du moment où les choses ne peuvent pas se valoir puisqu'elles ont des sens différents. C'est tout simplement ça. Et pour remettre la question artistique sur la table, eh bien oui, la question artistique, je trouve ça totalement légitime que l'État, les collectivités, le service public protègent des formes minoritaires qui ne sont pas rentables. Parce qu'elles ont un sens aussi dans l'histoire de l'art, dans l'histoire par rapport aux enjeux de vérité et autres. Voilà. Donc ce sont des logiques différentes. Les choses ne peuvent pas se valoir à partir du moment où leurs sens sont différents.
Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose ou réagir ?
Vas-y, Hélène, si tu préfères. Vas-y. Non, moi, je voulais dire que j'écoute tout ce que vous dites. Tu me laisses une petite place ? Non, mais non, je veux pas que tu... Voilà. Non, moi, j'écoute ça attentivement parce que ça me parle aussi beaucoup, ne serait-ce que ça questionne sur le programme que je porte. Parce que typiquement, il est du côté industrie culturelle et créative, c'est la dénomination du ministère. On sait très bien que déjà, c'est une dénomination franco-française. Par exemple, en Angleterre, ils sont beaucoup plus larges. Il y a le sport, par exemple, la culture sportive hein, dedans. Il y a aussi la gastronomie, l'œnologie, sans problème. Et il y a quand même... Alors là, je parle plutôt à Maxime, qui représente l'institution... Mais il y a cette tension permanente. Je repars d'industrie culturelle et créative. Il y a la moitié du secteur qui ne se retrouve pas dans cette dénomination. Quand on parle à Thiago Rodriguez, pour lui, le théâtre, ce n'est pas vraiment une industrie culturelle et créative. Lui, c'est avant tout, quelque part, il n'y a pas de reproductibilité, il n'y a pas de volonté, donc ça ne marche pas. Quand on parle à Art de Vivre, où ils font des pièces uniques pour Chanel, ça ne leur parle pas du tout non plus. Et cependant, c'est la terminologie du ministère, donc précisément d'un service du ministère qui s'appelle la DGMIC, le service pour les entreprises. Et il y a quand même toute cette... Moi, je suis passionnée par ce que tu dis sur... En fait, qu'est-ce qu'on appelle culture ? Mais le problème, c'est ce que les politiques, l'État, nous déclarent qu'on appelle culture. Et là, je le dis concrètement dans ce qu'on a vécu aussi avec Luc, parce que le projet des DAL, il y a deux projets dans le PEPR où il y a eu un warning de l'État. C'est le projet des DAL, Alternatives culturelles et créatives, et le projet Eupraxie, Bien-être, Citoyenneté, Démocratie. Parce qu'ils trouvaient qu'ils ne voyaient pas du tout le rapport avec la stratégie ICC. Mais enfin, il y aurait pu avoir que des projets là-dessus, en fait. Et quand on parle de vote RN, ben on sait très bien que plus on coupe la culture, plus il y a du vote RN aussi, en fait. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a quand même un gros décalage. Et c'est là où peut-être aujourd'hui on a eu des politiques. Mais moi, j'aurais beaucoup aimé qu'il y ait le coordinateur du secrétariat général pour l'investissement qui assiste à cette journée. Pour qu'on a l'impression qu'il y a en haut une espèce de fantasme de ce que sont, de ce qu'est la culture. De ce qu'est la recherche aussi. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va prendre le sujet et dire, ben, en fait, on n'y arrivera pas. Donc moi, je suis d'accord avec absolument... Enfin, aujourd'hui, cette journée, Luc, tu viendras conclure aussi avec moi, mais j'ai trouvé emblématique de ce qu'on essaie de faire. Alors, depuis des années avec le projet punk, parce qu'on travaillait sur le punk, mais et puis depuis quelques mois avec ce qu'on fait pour Icar, c'est-à-dire essayer juste de relier des mondes. Et ce que tu as dit, le tracteur, le nez rouge, en fait, c'est ça la culture. Sauf que quand tu vas parler aux politiques, pour eux, la culture, déjà, dans le discours des ministres, c'est l'Opéra de Paris, Versailles... le zouk, effectivement. Non, mais il y a un vrai problème parce que on est allé à la Réunion, en l'île de la Réunion. Et il y a plein de concerts sur la plage, mais les concerts sur les plages aussi, c'est de la culture autant que ce qui se joue dans les SMAC, en fait. Et, mais c'est pas du tout pris en compte. Et là où j'ai juste un tout petit, et après je me tais, mais en fait, je suis pas sûre que, évidemment, il faut aider tout le monde et être un soutien. Mais moi, on se pose aussi le problème, la recherche dans. En fait, cette stratégie nationale d'accélération industrie culturelle et créative, elle va servir à quoi ? C'est quoi son impact ? Et moi, ce que je pense, on va voir, hein, c'est pas moi qui vais le dire, mais elle est, moi, je pense qu'elle est conçue comme un guichet pour continuer à mettre sous perfusion un secteur qui est sinistré, qu'il était déjà un peu avant, mais qu'il est encore plus depuis le Covid. Et en fait, multiplier le guichet de petits financements à tout le monde, c'est bien joli, mais le jour où on va arrêter le robinet, il va se passer quoi, en fait ? Donc le robinet, il s'arrête en 2030. S'il n'y a pas un nouveau robinet, ben en fait, ça va être encore plus sinistré. Et donc, il y a aussi toute une question de qu'est-ce que c'est une stratégie, en fait. C'est pas ouvrir un tiroir et puis donner ben, 1 million pour un projet, 1 million pour un truc, ça a l'air super, il y a de l'IA, puis 1 million. Et en fait, ça fait quoi comme stratégie coordonnée ? Alors ça, c'est plutôt, voilà, mais c'est comme on est inscrit dans une stratégie, on se pose des questions. Mais quel impact, en fait, cette stratégie va avoir ? Quel effet transformateur ? Enfin, voilà. Et indépendamment de nous, ce qu'on essaie de faire en tant que recherche. Bon, je dis plus rien.
Une réaction avant qu'on passe à la clôture de la journée, mais on est déjà sur, on a déjà soulevé quand même des choses assez. Bon, ça, c'est une bonne façon de mettre. Eh ben, je vous propose de toute façon qu'on en termine là avec cette table ronde. Et mais tout à fait. Je vous passe la parole pour la clôture. Merci à vous.
Eh bien, je conclue en remerciant tous les participants et acteurs publics, intervenants, en remerciant de nouveau le lieu qui nous a accueillis, en remerciant Cédric dans ce superbe cirque. Merci pour votre présence. Merci pour la qualité des débats. On me posait la question à midi de savoir où on en était du projet et est-ce que c'était la première journée. Oui, en réalité, en dehors de la journée d'introduction qui a eu lieu en septembre à Paris, enfin disons le lancement un petit peu officiel de ce projet, eh ben, le territoire de Belfort, c'est la première journée de ce projet des DAL, hein, qui en verra plusieurs puisqu'il dure 5 ans. Et dans 2 mois, on sera du côté d'Ajaccio pour engager des débats qui risquent d'être aussi très très riches. Voilà, donc sachez que vous venez de participer à la première journée de réflexion, de débat très riche autour de ces questions liées à la culture, aux industries culturelles
et créative et à tout ce que ça suscite comme questionnement et on l'espère comme réponse, comme débat en tout cas, comme dialogue et comme énergie. Voilà, donc merci à tous. Et on va conclure de manière un petit peu rituelle avec un petit texte qu'on aime bien et qui s'intitule « Dédale, c'est quoi ?» Dédale, c'est une manière de penser l'impensable et l'impensé, de lui donner droit de citer dans un monde qui a besoin de réfléchir autrement pour avancer.
Dédale, c'est l'envie d'observer, de détecter, de repérer et d'accompagner ce qui ne ressemble à rien de connu et qui pourtant prépare l'avenir.
Dédale, c'est une façon de bouleverser ses habitudes pour regarder ailleurs, pour regarder autrement, pour montrer comment il arrive que l'on fasse autrement, que l'on crée autrement et comment cet autrement peut devenir une force inaliénable dans nos manières d'imaginer la culture et de bâtir les dispositifs qui la porteront et la projetteront dans nos vies.
Dédale, c'est une alternative scientifique pour penser des alternatives culturelles et créatives au service de toutes et de tous. C'est une réflexion qui cherche à tordre les idées reçues, ces idées toutes faites qui limitent l'espace des possibles en préconisant le recours aux standards, aux normes du marché, à ce qui a fait ses preuves à l'establishment culturel.
Dédale, c'est l'amour de la marge, non pas pour ce qu'elle pourrait représenter idéologiquement ou sociopolitiquement, mais bien pour ce qu'elle permet d'inventer en toute liberté, pour ce qu'elle permet d'imaginer sans limite, de créer sans contrainte.
Dédale, c'est l'attention portée à ce qui est marginalisé, non pour se réjouir d'observer un objet sociologique singulier, mais bien pour réfléchir à la manière de lever les verrous qui entravent le désir et les moyens de créer.
Dédale, c'est un projet qui forge des outils pour abattre des obstacles, tracer de nouveaux horizons en matière d'espace, d'air et de territoire des créations, pour imaginer de nouveaux futurs, pour de nouvelles technologies et de nouveaux mondes soutenables, pour penser des réseaux contributifs et des dispositifs créatifs et spectaculaires singuliers.
Dédale, c'est la promesse de réflexion sur les genres de la création. Dans le genre unique, freine les apports de l'imagination et de l'intelligence créative. C'est la possibilité de déconstruire, l'espace d'un instant, des catégories qui par trop enferment les biens culturels dans des descriptions et des secteurs hermétiques.
Dédale, c'est une manière de penser les arts et de vivre, de respirer, d'explorer les limbes de nos imaginaires en goûtant aux fruits étranges de nouvelles combinaisons culturelles, événementielles, esthétiques, artistiques, alliant tradition et modernité, luxe et simplicité, DIY et technologie de pointe, mobilité et éco-responsabilité.
Dédale, c'est enfin une équipe enthousiaste qui entend renverser la table et porter ce regard novateur sur le monde de la création et de la culture. Un collectif de chercheurs et d'acteurs qui portera un autre message, un autre regard sur une autre culture, sur d'autres développements culturels et d'autres avenirs prometteurs.
Un réenchantement scientifique du quotidien de la création et de ses industries. Voilà, merci à tous. Merci.